Bonjour. Je suis ravie de vous voir si nombreux pour la présentation de ce travail qui nous a demandé 2 ans, en fait, de l'appel à texte à l'impression. En vrai, c'est pas vrai. Hein. Pendant 1 an et demi, j'ai rien fait. Mais les 6 derniers mois, nous avons beaucoup travaillé. C'est l'anthologie de Parchemin et Traverse, 42, l'appel de la SF. Et c'est un travail militant dans le sens où c'est un travail fanzinal, entièrement bénévole, sauf l'imprimeur, ce vampire. Nous l'avons réalisé ensemble afin de célébrer la 10e anthologie de cette maison d'édition associative qui s'est donnée pour tâche de rechercher parmi les jeunes écrivains un vivier qui formerait plus tard peut-être, et ça s'est vu, la prochaine génération des écrivains de science-fiction. Donc, nous avons posé une question. En fait, non. Nous avons donné une réponse. Et nous leur avons demandé quelle était la question. Donc, la réponse, vous la connaissez tous, c'est 42. Eux, ils ont dû me répondre ce que c'était pour eux la science-fiction. En plus de leurs nouvelles, nous leur avons demandé de nous donner une brève définition de ce qui, pour eux, représentait l'essence de ce genre. Et je vais présenter chacun des auteurs ici présents avec la réponse qu'ils ont donnée. Et je vais commencer par la première d'entre eux, puisque c'est Sylvie Denis qui ouvre l'anthologie. Alors, je vous préviens, c'est assez mystérieux. Hein. Alors, la nouvelle de Sylvie Denis s'appelle « Sans but ni fin » et voici son ouverture. Tu pourras commenter après, si tu veux. Voilà. « Ground control to Major Tom ». Mon anglais est terrible, hein, alors donc, bon. « Ground control to Major Tom, take your protein pills and put your helmet on. » Les voisins. C'est pas un peu fini, ce bouquin. « This is Major Tom to ground control. » I'm stepping through the door and I'm floating in the most peculiar way. Putain, mon anglais. And the stars look very different today. Quand je chante, ça passe mieux, quand même. Les voisins, on va appeler les flics, hein. La romancière occitaine souleva le bras de lecture au-dessus de la galette de cire noire qui tournoyait indéfiniment. Quand on aime le scénar pourri de Battlestar Galactica, Redneck, Anatid. On ne la ramène pas, lança-t-elle. Et on supplie pour que le David Bowie de The Man Who Fell to Earth ait enfin un rôle à sa mesure. Elle inspira profondément, puis reposa le diamant sur le disque avec une impitoyable douceur. Effaçons cette expérience de pensée non convaincante. And I'm floating around my tin can, far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Je commente,
Tu commentes.
Je commente. Donc, en fait, pour retranscrire ce qui vient d'être dit, l'idée, quand on m'a parlé de l'idée de l'anto, j'ai fait ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer désespérément de trouver quelque chose qui corresponde à l'intitulé, quel qu'il soit, je me suis dit, bon sang, qu'est-ce que tu es en train d'écrire et qui irait ? Et là, j'étais en train d'écrire, parce que je ne sais pas faire autrement. J'étais en train, depuis un certain temps, comme d'habitude, de réfléchir à comment me venger de Battlestar Galactica, qui est une série qui a plein de qualités, des acteurs formidables, etc. Et tout ça, enfin la nouvelle, hein, pas l'ancienne. Sauf que le scénario, bof. Et en fait, le résultat, c'est la nouvelle qui est dans l'entour. Où il y a des gens qui construisent des moyens de transport étranges, mais fonctionnels au pôle Nord, et un certain nombre d'animaux intelligents et venus d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Non, c'est bon, ça ira.
Alors, je passe à Sylvie Lainé. Elle avait traversé le sable et ses yeux étaient verts. Elle monta à la salle où ils écrivaient tous. La pièce était vaste et blanche. Le froid gagnait les os sous les toches de laine noire. Mais il besognait sans relâche, prenait des notes, recensait, dénombrait, traçait des lignes précises, sans voir passer la robe bleue soyeuse sur les carrelages. Elle balaya d'un regard doux leur catalogue, leur manuel et leur calculatrice. Elle leur déclara « La SF est une corde de soie qui monte vers le ciel. Nous l'escaladons pour mieux admirer avec notre raison, notre cœur et notre émotion le vertige du monde. » Certains ne relèvèrent pas la tête de leurs travaux, mais d'autres la fixèrent, troublés. Ses pieds nus évitèrent avec nonchalance les ouvrages de référence qui s'écrasaient un à un sur les dalles glacées. Elle quitta la salle où elles écrivaient tous. Elle avait traversé le sable et ses yeux étaient verts.
Jeanne n'a pas expliqué comment elle a construit ses introductions. En fait, elle nous a demandé notre vision de ce qu'était la science-fiction et ce qu'elle nous apportait, et elle l'a enchâssé dans un discours qu'elle a construit pour nous en fonction de ce qu'on était à ses yeux. Donc, l'enchâssement, c'est « je suis prof dans la vraie vie », et il est très pertinent parce que s'il y a une chose à laquelle ça ne ressemble pas, pour moi, la science-fiction, c'est au fait de donner des cours. Ça n'a vraiment rien à voir et il ne faut surtout pas, à mon avis, se mettre en position d'expliquer des choses pour faire un texte qui prend vie pour le lecteur, surtout quand on écrit une nouvelle. Dans le petit mot que j'ai mis dedans, je parle du vertige du monde. Pour moi, la science-fiction, c'est vraiment quelque chose qui doit aider à retrouver un regard neuf, celui qu'on avait quand on était gamin, qui dit... c'est quand même incroyable, c'est quand même bizarre, il est quand même étrange ce monde dans lequel on est. Et ça, c'est un vertige merveilleux qu'il faut qu'on arrive à recréer quand on écrit. Alors j'ai fait une toute petite nouvelle, parce que moi j'aime bien les textes très courts, et dans lequel se glisse, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas, discrètement, insidieusement, un sentiment d'étrangeté et de vertige, parce que en partant de prémices très simples, on se retrouve à vivre de l'intérieur quelque chose qui est finalement inhabituel, mais que l'héroïne vit avec une grande simplicité. Donc il y a un décalage. Moi j'adore ce décalage et cette étrangeté que peut créer la science-fiction.
Alors merci. Je vais rajouter un petit truc sur la construction des chapeaux. Enfin, j'appelle ça les chapeaux. C'est que à chacun j'ai attribué une référence, une grande référence de science-fiction, une qui m'a marquée ou dont je trouve que elle leur ressemble. Alors évidemment, Sylvie,
vaguement fan de David Bowie.
Oui. Voilà. Et pour la deuxième Sylvie, c'était la Ballade de Bêta 2 de Delany. Pour Sylvain, je pense que vous n'aurez aucun mal à reconnaître la référence que j'ai choisie pour lui. Nous devons savoir si tu es un être humain ou une IA, enfant. Mets ta tête dans cette boîte, tu n'en sortiras que lorsque je te l'ordonnerai. Sinon, j'appuierai sur ce bouton, dit la vieille femme chauve en montrant le sol transparent. Un ignoble lac de Nutella et de fraises Tagada fondues y roulait ses ondes molles. Une trappe fermée défendait l'accès de ce cloaque et le jeune homme constata que ses pieds y étaient exactement centrés. Il rentra la tête dans la boîte et aussitôt une voix suave se mit à débiter ce discours tandis qu'il se tordait de douleur contenue. La SF, c'est un jeu qui consiste à considérer l'univers comme un gros tas de fers reliés les uns aux autres. Une pelote bien emberlificotée. Le jeu, c'est de changer un ou plusieurs paramètres en donnant une piche nette ou un coup de canon de 72 dans la pelote et de voir où et comment cela atterrit. Si cela peut être dans une configuration incongrue, étonnante ou autrement amusante, c'est d'autant mieux. « Assez !» hurla la vieille femme chauve. « Enfant, tu n'es pas une IA. Oh Dieu, jamais aucun nez d'une femme n'a tant souffert. Et c'est comme si j'avais voulu te voir échouer. » Elle le poussa, s'installa sur la trappe à sa place et poussant le bouton, s'abîma dans les flots bruns et roses dans un dernier grand cri. Bazinga !
Oui. Et non, cette introduction est plutôt bien tombée, puisque Dune est l'une de mes très très grandes références. Ça doit être le premier grand roman que j'ai lu de SF. Voilà. Et sinon, la réponse que j'ai sur ce qu'est la science-fiction, c'est effectivement essentiellement un genre ludique. Où on se prend à imaginer des choses et à inventer des choses. Et c'est un grand jeu, en fait. C'est extrêmement drôle.
Alors, je vais passer au suivant. Donc, à Olivier Côte, qui est non seulement un auteur de nouvelles dans l'anthologie, mais également le créateur de tout le graphisme autour de 42. Et à ce titre, je l'interrogerai un peu plus tard. Mais là, nous allons parler uniquement littérature. C'était le premier forain du marché. Il portait un grand chapeau à large bord jaune et rouge et un pourpoint triparti bleu, jaune et rouge. Devant lui s'étalait une table couverte d'objets hétéroclites et brillants. Tout en jouant avec une baguette, il faisait glisser trois pots sous lesquels il avait caché un poids. La femme s'approcha pour écouter son boniment. « La science-fiction, une littérature d'abord extrêmement exigeante et pour les fous qui font fi, malgré leur savoir scientifique, de l'impossibilité théorique de dépasser la vitesse-lumière habillée d'un scaphandre équipé d'un soutien-gorge pointu en plastique transparent. Mais les fous sont également sages, dit-on. Or, il faut être sage pour imaginer d'autres cultures avec gourmandise, jouir de concepts ardus, apprendre l'humilité à force de mettre à mal ses certitudes. La science-fiction, c'est tout ce qui est à la fois assez intellectuellement passionnant et d'une trivialité jubilatoire pour ne pas pouvoir se produire sous sa fenêtre. Sinon, pour ça, il y a la blanche. » La femme sourit et désigna un des pots. Il le souleva. Évidemment, il n'y avait rien. « Mais vous n'êtes qu'une carte !» s'écria la femme vexée.
Alors, concernant effectivement le texte, c'est vrai que je pense que l'intérêt de la SF, c'est de pouvoir comprendre des choses de façon plus parlante, plus évidente qu'avec la blanche qui a tendance à me gaver. Bon, voilà, ça c'était le coup de gueule. Après, pour l'habillage, il se trouve que c'est vrai que j'aime beaucoup l'inconscient, les archétypes. Je suis assez jungien, ce qui n'est pas toujours très bien vu. Et du coup, notamment le tarot book m'intéresse. Et puis, c'est vrai que la carte du battleur, parce que c'est de celle-là dont on parle, c'est le personnage qui a plein d'objets sur sa table. Et il se trouve que... À côté de l'écriture, j'ai d'autres métiers et pas mal de passions. Donc, du coup, il fallait un personnage qui soit jamais là où on l'attend.
Tu peux nous parler un peu de ta nouvelle ?
De la nouvelle ?
Oui.
Alors, la nouvelle, justement, puisqu'on parle de surprendre, en fait, j'adore la SF, mais je trouve que un peu trop... elle est extrêmement sérieuse, ce qui est très bien, et parfois elle est un peu trop sérieuse, ce qui n'est pas toujours bien. Et les auteurs, en fait, l'humour est insuffisamment exploité dans la SF si on compare avec ne serait-ce que le polar ou d'autres genres. Donc, comme j'adore les nouvelles classiques du type Frederick Brown ou Shackley, sans vouloir évidemment me comparer, parce que bon. J'ai essayé d'amener une dimension humoristique et surtout en mélangeant aussi la science-fiction avec le polar, parce que finalement à notre époque on peut, comme on est en plein postmodernisme, on peut prendre tous les ingrédients que l'on veut pour fabriquer sa salade.
Merci. Je passe à Simon Bréant qui a écrit une nouvelle qui s'appelle « Premier des citoyens ». Simon Bréant monta sur la montagne et clama. Écrire, lire, vivre la SF, c'est prétendre s'occuper par des moyens vaguement plausibles mais inaccessibles de questions passionnantes qui ne se poseront jamais comme telles, en faisant semblant d'être à peu près sérieux. En d'autres termes, c'est se placer dans le cadre d'un régime ontologique matérialiste spéculatif, ou à la rigueur, un régime ontologique matérialiste extraordinaire, mais en prenant soin d'y ajouter des boulons. L'assistance subjuguée prit des notes fébrilement. Toutefois, certains envoyèrent des SMS à leurs copains et copines pour prévenir que la journée serait peut-être longue. L'orateur se racla la gorge, secoua la tête avec sympathie et continua. Voici les régimes ontologiques. Prenez et écrivez-en tous. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Il fit une pause. Itemisa est. Sur ce, il se laissa glisser de son éminence grise et s'en fut manger des frites arrosées du sérum de la déesse bleue.
Merci. Alors, je me racle la gorge, effectivement. Alors, c'est agréable d'arriver dernier sur ce premier petit tour. Ça me permet de dire une chose, parce que je ne vais pas parler de moi au début. Ça me permet de dire une chose qui me semble assez essentielle, c'est que pour moi, la science-fiction, avant même de parler de ma propre définition ou de ce que j'ai pu faire dans ma nouvelle, la définition, c'est d'abord la multiplicité de ce qu'on trouve dans le recueil. C'est-à-dire que c'est avant tout une réponse, enfin, un questionnement multiple, puisqu'on a une même question et... une même réponse, voilà, je me perds.
On fait avoir à chaque fois.
Ouais, on a une même réponse et le questionnement est multiple. C'est-à-dire que la manière, les voies différentes qui se trouvent dans l'anthologie abordent des questions qui sont toutes, en général, plus ou moins sérieuses. Le traitement est très, très différent d'un auteur à l'autre. Et une chose qui me semble très importante et que je tiens quand même à dire maintenant et ici, et non pas ailleurs et demain, c'est que ces voix-là, c'est quand même déjà une prouesse importante de la part de l'anthologiste d'avoir su les faire émerger et de les avoir préservées. C'est-à-dire que là, ce que vous avez comme aperçu de 42, c'est finalement un élément de dialogue qu'il y a eu entre Jeanne et chacun des auteurs qui ont été cités. Il y en a de nombreux autres, il y en a certains dans l'assistance, Mathieu Valraet, Nicolas Barret, et il y en a encore d'autres évidemment. Cet élément de dialogue, il n'a jamais été fait d'une manière qui écraserait la voix des auteurs eux-mêmes. Donc véritablement, c'est un travail collectif et en ce sens, enfin au moins un travail à deux, et c'est un résultat collectif qui est extrêmement réjouissant et dans lequel je suis très fier de pouvoir figurer. C'est un objet d'un sérieux professionnel. Tu parlais d'effort fanzinal tout à l'heure. Je crois que d'un point de vue qualitatif, cet objet n'est pas... c'est pas la peine de mentionner que c'est un objet fanzinal, c'est un objet qui a toutes les qualités du professionnel et toutes les qualités du fanzine en même temps, c'est-à-dire l'enthousiasme, la passion, en même temps que la précision dans le travail accompli. Alors, ce faisant, je m'inclus dans mes propres louanges, ce qui est toujours pratique. Quelques mots sur ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu faire. J'ai une approche pour ma part, qui est un peu technique au départ de la science-fiction. Enfin, je suis un fan qui ensuite s'est mis à analyser la science-fiction. Bon, bref. Mais cette approche un peu technique, j'ai essayé de m'en départir complètement pour mon propre texte. Alors, mon but n'était pas de démontrer quoi que ce soit, d'essayer de situer. Pour moi-même, comme une expérience de pensée personnelle, en fait, ce que ça pouvait signifier d'avancer dans un futur proche, tout en essayant de jouer avec les images de la science-fiction. Et en l'occurrence, je me suis aperçu au fil des discussions qu'il y a eu dans ce lieu que j'avais en fait retrouvé des choses que je croyais avoir imaginées. Bien sûr, c'est souvent comme ça. Et notamment l'idée d'une conscience collective produite par la conjonction de toutes les connexions. Donc en fait, une matérialisation. J'aime beaucoup l'idée de matérialité dans la science-fiction. Une matérialisation de l'intentionnalité et de la créativité humaine qui en fait est en germe notamment dans Internet. Mais qui pour moi, et c'est ce sur quoi je finirai, qui pour moi est là encore caractéristique de la science-fiction, c'est-à-dire potentiellement l'émergence d'une réalité collective à partir et en préservant chaque singularité.
Merci. Je vais à nouveau passer la parole à Olivier Cotte qui va nous expliquer comment il a conçu l'esthétique de cette anthologie, sachant que la science-fiction c'est aussi une esthétique, c'est même pratiquement... la seule chose qu'on ait réussi à faire passer au mundane, comme disait un vieil ami à moi. Et donc, j'aimerais bien que tu nous en parles.
Bien. Alors, concernant... Parce qu'il y a deux points. Il y a la couverture et il y a les icônes à l'intérieur qui accompagnent chaque, euh, chapitre, c'est-à-dire en fait chaque nouvelle. Concernant la couverture, bon, ça fait très longtemps en tant qu'amateur de jazz que je fais une relation entre la science-fiction et le jazz. Alors ça peut paraître un peu curieux, mais c'est-à-dire que dans l'un comme l'autre, il y a des créateurs qui amènent par exemple un standard ou un nouveau thème et qui est repris par d'autres artistes, et puis ça peut durer pendant des décennies, et qui construisent par-dessus, qui le retravaillent, qui en offrent une nouvelle lecture et qui jouent en fait avec des codes. Alors des codes harmoniques ou alors tout simplement de mélodie, ou alors ça va être des codes thématiques dans le cadre de la science-fiction à partir de la première machine à explorer le temps de Wells. On n'a pas arrêté de travailler ce concept et bon, aujourd'hui il est accepté mais complètement neuf par rapport à l'original. Donc du coup la couverture, comme je voulais que ce soit quelque chose qui soit lié vraiment à une certaine idée de classique de la SF, je me suis tourné du côté des illustrateurs de l'âge d'or, de Jean-Franck Harpole, avec des couleurs qui sont volontairement très, très saturées, opposées. Et par contre, je voulais amener l'idée qu'il y ait une sorte de prémonition dans le dessin, c'est-à-dire que refaire une sorte de 11 septembre 2001, mais pas avec un design des années 50, mais pas avec les Twin Towers, mais plutôt une sorte de doublon de l'Empire State Building, et en même temps amener, parce que bon, on ne peut pas s'en empêcher, un gros BEM, un bien tentaculaire venu de l'espace, issu d'un trou noir, à l'intérieur de du chapiteau d'une des tours. Donc ça, c'était vraiment cette idée de reprendre en fait des standards, mais de les corriger et de les réinterpréter. Concernant alors, l'intérieur, par contre, au départ, on s'était dit qu'on ferait sûrement des badges de couleurs. Donc j'ai trouvé plus pratique de travailler d'abord la couleur, même en prenant le risque qu'on ne fasse jamais cette impression de badge, parce que ce n'était pas si évident que ça, pour plein de raisons, notamment économiques. Mais je sais que ça serait plus facile de travailler des badges couleurs comme on voit là, par exemple, et ensuite une déclinaison noir et blanc, puisque l'impression à l'intérieur du livre est monochrome. Donc j'ai travaillé chaque badge couleur pour qu'il soit extrêmement iconique, qu'il soit très facile à lire avec un faible diamètre, qui est bon, bah, comme à peu près tous les badges, de 4,5 cm. Et ensuite, la déclinaison à l'intérieur du livre a été organisée sur un système de trames à partir du moment où je me suis aperçu finalement que sur un papier qui n'est pas destiné, comme contrairement à la BD, à la reproduction graphique, les aplats noirs risquaient d'être insuffisamment réguliers. Et donc, il valait mieux carrément jouer sur une trame, mais alors une grosse trame qui puisse avoir une qualité plastique. Et du coup, il y a eu cette version noir et blanc qui a été en fait une recréation des badges couleurs et non pas un simple passage au noir et blanc.
Et du coup, tu oublies de nous dire que en fait chaque icône est vraiment la quintessence de la nouvelle qu'elle illustre. Tellement tu étais préoccupé par la technique.
Ah bah, si l'icône est totalement gratuite par rapport aux intentions de l'auteur, bon.
Mais insiste là-dessus aussi. Alors maintenant, on va peut-être aborder un petit peu les autres nouvelles de l'anthologie. Elles sont, comme l'a dit si justement Simon, totalement différentes les unes des autres. On n'a pas pu faire monter tout le monde, je regrette. Mais je ne peux pas vous lire les chapeaux qu'il est. Parce que sinon, autant vous lire toute l'anto. Et le but, c'est quand même que vous l'achetiez, hein, à la base. Il faut le dire.
Je rappelle qu'elle est en vente, mais attention, hein, les exemplaires vont repartir à 15h ou même avant avec les transporteurs. Voilà. Donc précipitez-vous sur les exemplaires à l'occasion des dédicaces qui ont lieu juste après. Et il y a un badge au choix avec chaque exemplaire acheté.
Cela étant, je vais avancer un petit peu et lire le tout début du livre pour présenter Jérôme Vincent. Et je vais présenter Jérôme Vincent à travers Gérard Klein, ce qui m'amuse beaucoup, je vous avoue. Alors voici ce que Gérard Klein a écrit au départ de cette anthologie. Demandez à un éditeur âgé et expérimenté ce qu'il pense de l'édition d'un recueil de nouvelles de science-fiction. Il fera la moue et vous exposera quelques dures réalités de l'existence. Il vous dira qu'il aime beaucoup les nouvelles, mais qu'elles ne se sont jamais bien vendues, sauf dans le champ de la science-fiction. Puis il précisera que la science-fiction, pour laquelle il a quelque peu œuvré, n'a plus de public. Le pire, c'est qu'il aura deux fois raison, enfin presque. Ça, c'est le tout début. Demandez à un éditeur jeune. Ça, c'est toi. Et peut-être encore inexpérimenté. Non, ça, c'est pas toi. S'il publiera des nouvelles de science-fiction, il vous répondra, bien sûr, j'aime. Et il aura raison. Alors, Jérôme, tu publies des nouvelles. Raconte-nous.
Alors, je suis entre les deux, c'est-à-dire que j'ai un peu vieilli. Venez me voir avec un projet d'anthologie ou un projet de recueil, et sans doute je vous expliquerai, et vous pleurerez à la fin de mon exposé, combien ça ne se vend pas, et combien j'ai une famille à nourrir, et combien je ne peux plus faire ça. C'est vrai, mais je suis dans un état quantique, moi-même, donc je publie quand même des recueils et des anthologies. Donc les deux réalités existent. Alors, soyons clairs, économiquement, les nouvelles, ça ne marche pas. Voilà, comme ça, ça arrive. Et c'est bien dommage, puisque la science-fiction, c'est quand même des nouvelles et beaucoup de très belles nouvelles, donc c'est dommage de s'en priver. Par ailleurs, puisque les choses, évidemment, ne sont pas simples, on a des gens comme Le Bélial, par exemple, qui publient des recueils de nouvelles qui fonctionnent. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'éditeurs, pour publier quand même des nouvelles sans en avoir l'air et que ça marche ? Deux solutions. Soit avoir des nouvelles de très très bonne qualité, par exemple Sylvie Lainé, 4 recueils, 258 prix littéraires au moins, à peu près, voilà, par exemple.
Elle n'a plus assez de cheminée.
Voilà. Deuxième solution, adosser les nouvelles à un festival, faire un recueil comme l'anthologie officielle des Utopiales, et on se sert honteusement de la notoriété des Utopiales pour dire regardez quand même ce livre et puis vous trouverez des choses bien dedans. Et puis le troisième truc, c'est de se dire de temps en temps avec un roman, donc on dit que c'est un roman et puis on dit qu'on rajoute quelques nouvelles. Donc les nouvelles sont un plus, sont un cadeau bonus, évidemment. L'intention est là, on publie des nouvelles, donc on en profite. Donc en fait, je suis entre les deux, je suis quantique, je suis aussi vieux que Gérard Klein parfois, pour vous expliquer combien la vie est dure, et en même temps, je suis parfois aussi jeune que je l'étais il y a longtemps en disant, on va le faire quand même. Donc, voilà. J'ai répondu à la question ? Ouais.
Si tu veux,
oui.
Moi ça me va bien. Tu as des projets de recueil de nouvelles ?
Non. Si.
Donc tu aimerais nous parler peut-être ?
Non, mais on va en faire. Enfin, on a un truc qui est absolument génial aujourd'hui, c'est que on a notamment du numérique qui est possible. Donc en fait, en gros, dès que je peux, je fourre des nouvelles au lecteur. Que ce soit quand je réédite un roman et qu'il y a des nouvelles qui sont complémentaires, type Le Travail du Furet, il y a quand même 7 nouvelles qui vont avec le roman, par exemple. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que notre grande chance aujourd'hui, c'est qu'on a le numérique et que le numérique ne coûte pas cher en investissement parce qu'il n'y a pas de papier à payer et que dans ce cadre-là, on peut en faire plusieurs et plein. Pour répondre à la question, parce que je digresse, et c'est nul en table ronde les gens qui digressent comme ça. Oui, j'ai plusieurs recueils de nouvelles en préparation. Je me bats pour acheter les droits d'un recueil de Charles Strauss qui s'appelle 3 nouvelles de la laverie, et avec dedans Écoïde, qui a eu le prix Hugo, si je dis pas de bêtises, qui sont des nouvelles notamment avec beaucoup de Lovecraft et de nazis dedans, donc ça nous fait bien rire, et je pense que là on aura un argument assez fort pour passer outre. Et puis on a quelques projets secrets avec Sylvie Lainé ensemble, mais on peut pas tout vous dire parce que c'est notre vie à nous, et puis on continuera à faire des anthologies. En revanche, par contre, et ça c'est vrai, je n'ai pas d'autres recueils de nouvelles de prévu. Voilà, ça c'est la dure réalité. Puisque, sauf exception, je suis comme Gérard Klein sur cet aspect quantique.
Écoute, si c'est ton seul point commun, ça va aller.
Oui, non, mais j'espère devenir aussi vieux et vieil éditeur que lui.
Alors, pour reprendre sur les recueils de nouvelles, nous, chez Parchemin Traverse, je suis encore Parchemin Traverse, mais je vais bientôt cesser de l'être puisque je vais passer le flambeau. Puisque cet éditeur sollicite des écrivains pour diriger leurs anthologies. En ce qui me concerne, j'avais accepté, quand on est venu me chercher, j'avais accepté avec enthousiasme parce que je dois énormément à Parchemin et Traverse. C'est grâce à eux que j'ai publié mon premier texte et d'une certaine façon, c'est grâce à eux que je suis là. C'est eux qui m'ont lu en premier avec une très grande patience et ça m'a paru totalement... c'est même pas l'évidence, bien sûr. Vous voulez que je vous fasse une anthologie, mais quand vous voulez, comme vous voulez. Mais je suis tout de même heureuse de passer le flambeau. Alors, il y a deux anthologies en préparation. La première qui suit directement 42 sera dirigée par Simon et la suivante par Sylvie. Et je vais d'abord te céder la parole pour que tu nous en parles.
Quelques mots là-dessus. Donc c'est une anthologie sur la thématique de frontières au pluriel. Contrairement à 42 qui a tenu très bien la barre sur la science-fiction à proprement parler avec un sujet pareil, l'idée c'était d'élargir un maximum aux différents types de récits de ce qu'on appelle l'imaginaire au sens large, même si je n'aime pas beaucoup ce terme. Donc il y aura dans le sommaire en train d'être constitué, puisque l'appel est terminé, il y aura des textes aussi bien de science-fiction assez pointus que des récits lovecraftiens, que des récits plein fantastique ou de plus courants, si j'ose dire, que des récits de fantasy avec, alors je préfère ne pas nommer trop d'auteurs pour l'instant, mais je pense notamment à Anthony Boulanger qu'on retrouvera, qui est dans cette anthologie et qui est un auteur aussi tout à fait... qui serait bon de mentionner, mais il serait bien de mentionner tous les auteurs, mais on n'aura pas le temps, ou peut-être qu'on le fera tout à l'heure. Ou Estelle Faye, par exemple, qui ont livré donc, des textes tout à fait intéressants. Le prochain sera dans une diversité, une exploration particulière, plus horizontale que d'approfondissement comme celle-ci. C'est un travail tout à fait intéressant, exigeant, très exigeant. Je rends à nouveau hommage à Jeanne, d'autant plus maintenant que je me rends compte de la lourdeur et l'importance de la tâche, qui consiste justement à laisser s'exprimer les auteurs, tout en essayant de les guider vers une forme plus adaptée, plus adéquate, ce qui est un exercice d'équilibriste tout à fait formateur. Voilà.
J'enchaîne. Alors moi, quand Parchemin et Traverse, Sandrine et Jeanne m'ont proposé de diriger une anthologie, j'ai trouvé tout de suite l'idée géniale parce que il se trouve que quand je suis rentrée dans le monde de la science-fiction il y a très longtemps, c'est parce que j'y ai rencontré au tout début un passionné qui s'appelle Marcus Leicht, qui m'a proposé de faire un fanzine avec lui. Les fanzines, maintenant, si ça se trouve, il y a plein de gens qui savent même plus ce que c'est. À l'époque, il y en avait pas mal des fanzines, des revues amateurs qu'on photocopiait, qu'on tapait à la machine, qu'on tirait à un tirage qui d'ailleurs actuellement est quasiment devenu un tirage professionnel, mais qu'à l'époque on trouvait ridicule.
Tu permets, j'ai lu quelque part que les Lames Vorpal étaient sorties à 1000 exemplaires.
On a réussi à tirer à 1000 exemplaires, ce qui était beaucoup pour un fanzine à l'époque. Relativisons quand même les 1000 exemplaires. On faisait du print on demand avant l'heure, puisque c'était de la photocopie. Et que les 1000 exemplaires, on les a vendus sur une durée de 3 ou 4 ans. Mais bon, c'est le tirage final.
Il y a certains...
Mais c'est vrai qu'on avait inventé le print on demand à l'époque. Oui. On ne le savait pas.
Je voulais juste dire que c'était le même individu, Marcus Leicht, en Marche Léger, qui avait publié mes premiers textes dans je ne sais plus si c'était L'âme Vorpale ou Rune. Chronologiquement, je ne sais plus lequel a commencé en premier. Donc voilà, il est responsable pour beaucoup de choses.
Voilà. Donc, quand on n'a jamais écrit, c'est extrêmement intimidant d'écrire. Je ne sais pas vous, mais rencontrer les grands auteurs ici, moi, j'ose à peine aller leur parler et j'ai les genoux qui tremblent pour aller dire bonjour à Robert Silverberg, mais avait à d'autres aussi. Donc, écrire, c'est terrifiant comme idée. Mais écrire pour un fanzine, ça l'est beaucoup moins. Moi, ça m'a permis de me lancer. Et une fois qu'on s'est lancé, tout devient possible. Alors, c'est toujours un fanzine. Vous avez compris que c'est bénévole, qu'on torture tout le monde, que tout le monde travaille comme des fous et qu'on a le bénéfice, c'est la gloire absolue. Mais ceci dit, Jeanne a mis la barre très très haut. J'ai un peu peur, toutes les entos, parchemins et traverses sont très belles. Les préfaces, l'objet qu'on a actuellement en main n'ont pas grand-chose à voir avec l'idée qu'on se faisait d'un fanzine il y a 30 ans. Ceci dit, j'espère qu'il y aura beaucoup de propositions, puisque l'appel à texte n'est pas encore lancé. On va l'annoncer le mois prochain, donc si l'idée d'écrire vous intéresse, surveillez le site web de Parchemins et Traverses, vous y trouverez tout. Et la seule chose que je dirais, c'est le titre. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire autour, il faut toujours le temps de cogiter. Ce sera vulnérable. Voilà, j'en dis pas plus.
Alors, je vais rebondir sur quelque chose que disait Sylvie, et je vais viser Sylvain. Alors, est-ce que c'est vraiment moins impressionnant d'écrire pour un fanzine ?
Ah, pas du tout.
Ah, c'est bien ce qui me semblait. Alors là... J'ai vu tes
yeux. Non, c'est extrêmement impressionnant malgré tout, parce que c'est peut-être un fanzine, mais on voit des noms quand même très établis là-dedans. Il y a toute une mécanique derrière qui fait que on a pas l'impression d'être écrasé, mais il y a un travail qui est vraiment pas neutre derrière. Et voilà.
Et si tu nous parlais du cul-de-sac, justement, tiens.
Alors, cul-de-sac, au passage, merci à Sandrine d'avoir trouvé le titre. C'est une histoire un peu faux-folle. Comme je disais tout à l'heure, la science-fiction, c'est très ludique. C'est une histoire un peu folle où l'idée, c'est que dans quelques années, un extraterrestre arrive en Tanzanie et résolve d'un coup de cuillère à peau tous les problèmes de faim dans le monde, de guerre, de choses comme ça. Et globalement, tous les problèmes économiques qu'on peut trouver dans le monde sont résolus. Au travers de technologies et de biotechnologies en particulier. Et derrière, ça favorise l'émergence déjà de la Tanzanie comme première puissance économique mondiale, ce qui est quelque chose que j'ai trouvé assez amusant. Et d'autre part, de toute une classe de personnes, tout un groupe d'individus dont la passion, c'est pas de lire des nouvelles de science-fiction, c'est d'aller se modifier, modifier les corps, modifier les gènes des gens, modifier le rapport qu'on peut avoir avec, avec la réalité, avec les autres. Et l'histoire en trame de cul-de-sac, c'est une sirène qui est un organisme complètement artificiel mais qui est quand même une vraie personne. C'est une sirène qui se retrouve enceinte qui se rend compte qu'il lui manque toute la couche musculaire qui permet de faire des contractions et qui ne peut pas accoucher et qui du coup va chercher quelqu'un pour lui dire greffe-moi de quoi accoucher. Voilà.
Simon, tu ne nous as pas parlé de Premier les citoyens, je crois.
J'en ai un petit peu parlé quand même. J'ai parlé de la conscience qui est le point de départ. Et de ce point de vue-là, je dirais que j'ai essayé de faire du post-cyberpunk. Je pense que ça peut suffire à cet égard comme présentation de la nouvelle. Je vais laisser la parole à d'autres. Mais j'aimerais juste signaler une chose que Gérard Klein fait remarquer dans sa préface, qui me semble très vrai, c'est qu'il y a un souci... Et ce que vient de dire Sylvain pour sa propre nouvelle est caractéristique de cela. Il y a un souci, il y a un intérêt pour la question du génétique et la question de la biologie qui est très très fort dans ce recueil et qui fait que il y a véritablement, enfin potentiellement, une réflexion un peu émergente sur justement l'importance, l'impact d'un certain nombre de technologies qui sont peut-être moins abordées, enfin elles le sont, mais peut-être moins proéminentes, notamment moins représentées dans les utopiales aujourd'hui, qui s'occupent beaucoup d'astrophysique et de physique là dans cette édition. Là vraiment il y a beaucoup de choses sur la biologie et la génétique, et de ce point de vue là peut-être Sylvie justement aura peut avoir des choses à dire sur ce point-là.
Non, je voulais juste dire qu'on pourrait éventuellement essayer de lancer une idée de thématique aux prochaines utopiales qui serait vivant. Ce serait beau, non ?
Vivant, c'est chouette. Alors, on n'a pas nommé tous nos collègues. On va peut-être le faire. Alors, en compagnie des auteurs ici présents, il y avait également Nicolas Barret, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle « Imago ». Et qui est représenté par un badge extrêmement suggestif que vous avez dû voir passer. Je vous le laisse, deviner quand il va arriver. Là, c'est celle de Sylvain, donc la sirène. Bertrand Bonnet, que d'aucuns connaissent mieux en tant que blogueur et critique. Ça doit être sa deuxième ou troisième nouvelle publiée. C'est également un collaborateur du journal de Bifrost. Anthony Boulanger, dont Simon Bréant parlait juste il y a 5 minutes, que j'avais déjà eu la joie de publier dans Destination Univers pour Griffes d'encre. Magali Cousigou, c'est un membre de Présence d'Esprit, et à mon avis, cette jeune fille aurait tout intérêt à persister dans la carrière quand les innés n'y seront plus, parce qu'elle a vraiment de très très grandes qualités. Sa nouvelle est représentée par l'homme, comment tu l'appelles, tu sais, c'est celui avec les chaînes ADN.
Enfin, l'homme de Vésuve, l'homme repris par la section d'or par Da Vinci, quoi. Oui.
Voilà, l'homme de Da Vinci. Vésuve. Alors, Michel Ferret, non, c'est le premier texte publié. Et alors là, je veux parler de ce texte en particulier, parce que pour moi, c'est pas mon texte forcément, mon texte préféré, je vous dirai pas qui c'est, de toute façon l'ontologiste ne parle jamais, mais j'ai été profondément touchée par la terrible tendresse qui émanait de ce texte. Si j'ai vu une fois une déclaration d'amour à une femme vraie, respectueuse, totale, c'est dans ce texte-là. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie ?
L'auteur a pris le parti pris de parler plutôt de son rapport à la SF que de la science-fiction elle-même. Ce qui faisait partie d'ailleurs des... C'était vraiment la thématique initiale. Et il l'a fait en y révélant son intimité amoureuse d'une manière extrêmement émouvante. Donc moi, j'ai pas eu le temps de lire tous les textes encore. J'ai lu celui-là, il m'a beaucoup touchée aussi, celui de Michel Ferret. C'est pas de la science-fiction, et c'est très beau. Et ça parle de science-fiction.
Mais il a une autre qualité pour moi, celui-là, en plus. C'est que, voyez-vous, il y a une vieille blague que j'ai faite il y a 10 ans, et que ça y est, je l'ai actée dans cette anthologie. J'ai dit que l'icône de la science-fiction, c'était le lézard à gros seins. Alors, d'abord, Olivier Cotte m'a fait plaisir, il y a un lézard à gros seins sur la couverture. Dans ma postface, s'appelle « Du comportement » des lézards à gros seins dans un espace à n dimensions. Mais surtout, et ça c'est un cadeau que m'a fait Michel, il y a des lézards à gros seins dans sa nouvelle. Elle ne pouvait pas être mauvaise. Un autre auteur qui, hélas, n'est pas venu et que j'aurais bien voulu voir avec nous, c'est Olivier Gechter, qui n'est pas un débutant, mais dont les scénarisations me laissent toujours absolument pantoise. Qui a donc écrit, je dirais, la nouvelle que j'aurais voulu donner à Alain Damasio. Je pense qu'il l'adorerait s'y tomber dessus. Ça raconte la fin des réseaux et dans quel état ça met tout le monde. Nathaniel Hansen a abordé une science-fiction que Simon Bréant et moi avions totalement oubliée. Tu te souviens pas de la conversation ?
Oublié. J'ai oublié que j'avais oublié.
Ça s'appelle du déni. C'est donc Nathaniel, c'est le métaphysicien que nous avons fouillé à l'entrée, mais que nous avons laissé passer quand même. Anne Larue. Anne Larue a livré un texte qui lui ressemble totalement, qui peut, comment dire, qui peut. Alors voilà, il a un côté foutraque, indéniable. Mais c'est tellement joyeux, c'est tellement vivant, et c'est tellement Anne Larue que c'est une des grandes nouvelles féministes de ce texte. Timothée Ray a fait du Timothée Ray, et grâce à Dieu, nous n'avons pas de notes de bas de page de lui. Sinon, notre maquettiste, que nous avons déjà bien fait souffrir, je pense qu'il se serait pendu. Et Mathieu Valray, que voilà. Mathieu Valray a livré la nouvelle qui a fait crever de rire Gérard Klein. Tu veux nous en parler ?
Oui, alors, je me suis dit, s'il faut montrer la diversité de la science-fiction, il va falloir que quelqu'un se coltine la nouvelle de Hard Science. Donc, je me suis mis, alors j'ai parlé d'informatique théorique avec le guide du routard de la complexité. Alors, ne paniquez pas, il n'y a que 3 pages.
Mais c'est dense.
Ça a été l'horreur.
Oui, il y a peut-être quelques passages qui sont difficilement compréhensibles. Alors, comme il y a parmi les lecteurs de science-fiction quelques informaticiens, la partie des informaticiens qui s'intéressent aussi un peu à la théorie comprendra peut-être cette partie-là. Mais sinon, ne paniquez pas.
Alors, le truc, c'est que je ne vois pas Nicolas. Ah ! Sinon, je t'aurais appelé. Mais tu peux venir ?
Alors pendant qu'il se déplace, je tiens à préciser que Timothée Ray a notamment réussi la prouesse, chose que j'ai rarement vue, d'écrire un drame au sens théâtral du terme de science-fiction. Et j'étais sceptique avant de lire le texte. Et je dois dire que ça fonctionne très bien, y compris d'un point de vue justement de la scénographie.
C'est le plus oulipien de nos écrivains. Et là, j'ai été... soufflé par son travail là. Nicolas ?
Oui. Alors moi, je ne vais pas parler de mon texte, je vais parler du badge d'Olivier. Parce que
c'est le sien.
Il est là.
Parce que, en fait, moi, c'est assez drôle parce que dans le texte, il y a un moment, il y a une scène d'amour, il y a une scène sensuelle que j'ai coupée. Parce que je trouvais qu'elle n'était pas utile par rapport au propos du texte. Et ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, au début, le badge d'Olivier m'a perturbé. Et après, j'ai trouvé qu'en fait, c'était assez extraordinaire parce que cette scène coupée que lui n'a jamais vue, elle est représentée par le badge. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a un dialogue entre mon texte et le badge que je trouve assez... enfin, voilà, c'est un vrai dialogue. Et je sais pas si je te l'avais dit, mais... et c'est ça, c'est en ça que je trouve que c'est... Parce que l'illustration, c'est la difficulté que tu as eu à avoir. Il ne faut jamais être dans la redite. L'idéal, c'est qu'il y ait une espèce de synergie entre les deux. Et je ne peux pas parler pour les autres, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec ton badge. Même s'il y a eu, j'ai eu un moment de résistance. Oui, mais si, il avait raison. Voilà, donc je voulais te le dire. Et donc, sinon, ouais, mon texte est assez foutraque aussi. Jeanne a dû gérer quand même pendant longtemps une espèce de métastase, hein, parce que ça partait dans beaucoup de directions. Et j'espère, elle m'a beaucoup aidé à faire en sorte quand même que, bon, voilà, il y ait un fil et il y ait une unité au final. Et ça a été extrêmement formateur. Hein, voilà.
L'anthologiste entre la chimiothérapie et la psychothérapie. Sylvie ? Qu'est-ce que tu aimerais dire ? Parce que je ne t'ai pas beaucoup entendu et je ne t'ai pas beaucoup donné la parole, il me semble.
J'aime bien le badge aussi parce qu'il synthétise très bien le moyen de locomotion que construisent les humains au pôle Nord. C'est un train à lévitation magnétique qui projette des navettes spatiales en orbite et au-delà. Et ça n'a rien à voir avec Battlestar Galactica. Le rapport avec Battlestar Galactica, c'est que j'aimais pas du tout ce qu'ils ont fait de la flotte dans la nouvelle version. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, en me disant, mais bon sang, moi, ce que j'adorais dans la vieille série, qui était absolument lamentable et kitschissime, mais qu'on regardait quand même, parce que dans les années 70, il n'y avait rien d'autre. Donc, il y avait Battlestar Galactica le samedi après-midi, on regardait quand même si on trouvait ça déjà nul. Et ils l'ont refait, et ils ne l'ont pas refait comme j'aurais voulu. Et donc c'est comme ça que j'ai fait dans cette nouvelle. Il y a une flotte, il y a des vaisseaux, mais ça n'a rien à voir. Et il voyage, etc. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la série moderne et avec l'ancienne non plus. Et il y a plein d'extraterrestres. Pour dire que quand Jeanne avait proposé l'idée de d'écrire quelque chose qui soit quintessentiellement de la SF, la quintessence, c'est dans cette nouvelle-là, en tout cas, c'est la rencontre avec l'autre, et c'est des gens qui font des choses qu'ils ne feraient jamais autrement dans une vie normale et dans un texte de pas SF. Et je viens d'apprendre, ça c'est très amusant, parce que parmi les choses que Jeanne m'a fait faire, un truc que j'ai jamais fait, c'est-à-dire qu'en fait la nouvelle était beaucoup plus longue, il y a toute une partie qui a été coupée avec mon consentement, et donc en fait il y aura d'autres nouvelles dans ce même univers, sauf que je viens de m'apercevoir que le type à côté de moi a eu une idée vaguement proche de la mienne. J'ai pas encore lu sa nouvelle, mais bon, je vais aller vérifier.
Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Il y a une question dans la salle.
Non, c'est une proposition. Et si finalement Gérard Klein devenait anthologiste d'une future anthologie après Et Simon et Sylvie?
Non, ce qui était prévu, Gérard, parce que je ne t'avais pas vu, c'est de te demander de monter avec nous, puisque tu as été la bonne fée, ou je ne sais pas, c'est toujours difficile de savoir comment on se penche au-dessus des berceaux, mais viens nous rejoindre, s'il te plaît.
Pendant que Gérard Klein arrive, je précise que, de manière honoraire, le fait qu'il y ait une préface de Gérard Klein à côté de l'excellente préface de Xavier Mauvaisjean aussi, fait de nous de manière honoraire un élément de la grande anthologie de la science-fiction française.
Wow.
Et donc, nous sommes le prolongement de la grande anthologie de la science-fiction française, apport essentiel de Gérard Klein, avec bien sûr des collègues, et notamment les 42, hein, Dominique Martel et Hélène Hersfeld, à l'édition de science-fiction.
Eh bien, c'est fini. Merci.
Il nous reste 2 minutes.
Oh, pardon. C'est moi qui... Je suis tellement perdue. Il faut toujours que je m'en aille.
Eh bien, c'est la première fois que je découvre à cette table que la science-fiction est nourricière. Je n'en étais jamais aperçu. Non, je crois que je dois décliner l'offre qui, semble-t-il, m'a été faite de présider à une prochaine anthologie. Vous comprenez pourquoi mon défaut d'expérience. Cela étant, j'ai, comme je l'ai dit dans la préface que j'ai griffonnée, j'ai beaucoup apprécié ce recueil. C'est plutôt un recueil collectif qu'une anthologie. Une anthologie étant un choix. J'ai beaucoup apprécié ce recueil collectif. Je dois dire que quand Jeanne m'a demandé si je ferais une préface, j'étais un peu inquiet parce que des recueils collectifs, j'en ai vu défiler quelques-uns. Et j'ai horreur soit de dire du mal de ce que je présente, soit d'en dire du bien en des termes, ça m'est arrivé du reste, en des termes très contournés. Là, je n'ai eu aucun problème. J'ai trouvé ce recueil vraiment d'une très grande qualité. Il y a plusieurs textes, comme je l'ai dit à Jeanne, que je trouve de qualité internationale. Enfin, tout se tient. C'est vraiment très bien. Beau boulot. Continuez les enfants.
Merci Gérard.
Si je peux juste dire quelque chose. Moi, je fais partie typiquement de la génération qui a appris la science-fiction en allant dévaliser la bibliothèque municipale et prendre tous les ailleurs de main qu'il y avait. Avoir, pour mon premier texte publié, une préface de Gérard Klein, c'est le plus beau cadeau du monde qu'on pouvait me faire. Voilà, merci.
Oui, à titre personnel, je veux dire que la préface, enfin, votre préface a été une belle surprise parce que forcément votre carrière d'éditeur éclipse votre carrière d'écrivain en tant que tel. Mais je voulais dire rapidement hier, vos nouvelles, en particulier vos nouvelles mythologiques dans Histoire comme si, m'ont vraiment beaucoup influencé. Et il y a un moment, je joue avec l'image d'Orphée. Vous avez un texte sur Orphée qui est dans mon panthéon personnel, un chant de pierre. Voilà.
Je suis ému, comme disait l'autre.